30 minutes d'infos choisies
chaque vendredi sur Radio Galère 88.4.
Le monde tel qu'on le connaissait s'écroule. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle.
Et bonjour.
Salut.
Nous sommes le 11 novembre 2022, vendredi, 12h30 précisément. C'est l'heure des infos choisies. Salut.
Salut tout le monde.
On est un 11 novembre. Et plutôt que de rendre hommage à un soldat inconnu, pourquoi ne pas plutôt parler de désobéissance civile ? Les médias mainstream nous abreuvent de discours très manichéens, très binaires. Il y aurait deux camps. Celui de la force obscure, genre Kadhafi, Assad, actuellement les Russes, les djihadistes. Et celui de la force éclairée, la démocratie, l'Europe, les États-Unis, l'Ukraine. La géopolitique mondiale est beaucoup plus complexe et chaque coup de force se paye malheureusement. Dans nos médias alternatifs de gauche, on trouve des articles soutenant et acclamant l'armée ukrainienne, mettant sur un piédestal Zelensky. Comme s'il pouvait y avoir une armée propre, qui ne tue pas, qui ne viole pas, qui ne pille pas, qui ne détruit rien. Soutenir la guerre et un de ces deux camps, c'est soutenir la destruction. Je caricature un peu en mode X-Men, mais on est très souvent dans cette rhétorique guerrière, notamment depuis 2001. Celle du « choisis ton camp, t'es obligé, tu n'auras pas le choix car c'est trop grave ce qui se passe ». Et si justement, tout en se disant que c'est grave, on prend un chemin de traverse et un autre parti pris, moins guerrier, car on n'a pas envie de soutenir des dynamiques nationalistes, des enjeux coloniaux, des pillages coloniaux, que l'on n'a pas envie de voir des pays dévastés, les États-Unis et l'Europe renforcés après des guerres, de voir d'autres nationalismes grimper et utiliser au final les mêmes formes répressives. La désobéissance civile, ce n'est pas qu'une histoire de discours, mais d'actes. Refuser d'aller au service militaire, déserter lorsqu'on est appelé au front, saboter de l'intérieur, faire dérailler le système, ça demande du courage. Pourquoi autant de nos pères et de nos grands-pères se sont soumis à cette injonction étatique du front alors qu'ils n'étaient pas forcément hyper nationalistes? C'est dur de désobéir à l'État, c'est se mettre au banc, c'est donner l'impression qu'on n'est pas assez viril pour se battre, c'est se marginaliser ou devenir clandestin. Et ça demande des besoins matériels et des ressources financières. Ça semble souvent inimaginable. Comment résister, où se cacher, où travailler, comment continuer à soutenir sa famille? Malgré tout, même si c'est difficile, cette désobéissance civile existe. En Russie actuellement, des unités combattantes ont déserté. Des femmes manifestent sans armes, mais dans la violence de la répression, pour ne pas envoyer leurs enfants au front. Le mouvement Résistance Féministe Anti-Guerre, FAS, est né dès le lendemain de l'invasion russe pour informer la population de la réalité de la guerre. Il fédère actuellement 45 organisations qui existaient déjà dans différents secteurs, auxquelles s'ajoutent des dizaines de militantes anonymes dans 60 villes en Russie, sans compter celles qui ont dû s'exiler. Sur leur site internet Arrêtez les wagons, des activistes russes revendiquent, après 6 mois de guerre, plus de 50 groupes organisés de résistance ferroviaire, des centaines de sabotages par des militants individuels et plus de 90 déraillements de trains de marchandises qui sont volontairement sans effusion de sang. En sabotant les voies ferrées, on sauve des vies et des deux côtés du front, déclare-t-il. Le 8 mai 2022, la chaîne Telegram du mouvement est bloquée parce qu'elle diffusait une carte des sabotages. De juin à la fin du mois d'octobre 2022, le groupe revendique 6 sabotages contre l'infrastructure ferroviaire russe. En Biélorussie, des cheminots et des pirates informatiques participent au réseau de saboteurs, les partisans du rail. Ils veillent à ne pas faire de victimes humaines. De février à mai 2022, plus de 80 actes de sabotage contre les chemins de fer ont été effectués dans toutes les régions de Biélorussie. Quelques jours après l'invasion russe, ils ont réussi à bloquer, sur les lignes de front, les troupes russes sans nourriture, carburant ni munitions. Plusieurs dizaines de cheminots activistes avaient alors été arrêtés. Et à cause de la répression et de la surveillance accrue des lignes ferroviaires, notamment par drone, il est devenu trop dangereux de faire des attaques. La Biélorussie est le seul pays européen à appliquer la peine de mort. Les sabotages considérés comme des actes de terrorisme en sont désormais passibles. Et en Ukraine, il y a aussi des démotivations chez les soldats. Il y a aussi un mouvement anti-guerre. Des personnes qui ne soutiennent ni Poutine ni Zelensky et qui résistent à l'invasion sans promouvoir leur leader national. Bizarrement, ces personnes et ces combats ne sont pas mis en avant dans les médias français. Il vaut mieux pour le gouvernement nous focaliser sur la menace nucléaire pour nous faire accepter que oui, on est en guerre aussi. Mais là où il y a des complices des guerres, des luttes et des sabotages peuvent être aussi possibles. Où sont les usines qui produisent les armes qui servent en Ukraine et en Russie? Comment lutter contre le coup de force d'un gouvernement qui passe en 49-3 le budget de 2023, qui augmente encore et toujours les budgets de l'armée et baisse celui de la santé et de l'éducation? Pourquoi la gauche est aussi molle sur ces enjeux anti-impérialistes et anti-nationaux? On est bien loin des manifestations de masse anti-guerre, et pourtant...
Les infos choisies, vendredi,
les
midi
30. Les infos choisies, vendredi,
les
midi
30. Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Ok, on est le 11 novembre et du coup, ben, malheureusement, on continue à parler de la guerre. Plusieurs dizaines de militants et militantes kurdes et solidaires ont occupé mercredi le siège de l'Organisation mondiale de la santé à Genève. IIL protestait contre l'utilisation par l'armée turque d'armes chimiques interdites par le droit international dans sa guerre contre le peuple du Kurdistan et le Parti des travailleurs du Kurdistan. Était aussi mise en cause la communauté internationale qui se distingue par son silence face aux crimes de guerre du gouvernement Erdogan. Après 2 heures de blocage, les manifestants ont pu avoir un contact téléphonique avec une responsable de la question des armes chimiques qui les a assurés du lancement d'une procédure d'enquête. En Turquie, la présidente de l'Association des médecins turcs, alors je vais sûrement mal le prononcer, désolé, Şebnem Korurfinansi, a été arrêtée après avoir demandé l'ouverture d'une enquête indépendante. Elle est accusée de propagande en faveur d'une organisation terroriste et dénigrement public de la nation kurde. Turque. Les bombes thermobares et les bombes au phosphore utilisées par l'armée turque provoquent de graves troubles respiratoires et neurologiques et les autorités nient évidemment avoir fait usage de ces armes.
Les infos choisies, vendredi, midi 30.
Les infos choisies, vendredi,
les infos choisies, vendredi, midi 30.
Choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confessos deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida do thank you.
choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como vendaval. Me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião. A minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher do fim do mundo. Eu sou, eu vou até o fim cantar, mulher do fim.
Voilà, on vient de s'écouter Elsa Suarez. Et on va maintenant parler des frontières et commencer par la lecture d'un témoignage d'un camarade du collectif Venti Kappa. Lundi matin, le 7 novembre, la frontière meurtrière a fait une nouvelle victime, Ahmed Safi, 19 ans. Vers 5h30 du matin, son corps, écrasé par un camion, a été retrouvé sur l'autoroute au niveau du péage de Vintimille, à la frontière entre l'Italie et la France. Deux voitures et un camion l'ont écrasé. Personne ne s'est arrêté. Ahmed tentait de franchir la frontière à pied sur l'autoroute, en compagnie d'autres personnes. C'est un énième meurtre de l'État, dû aux politiques inhumaines de discrimination et de refoulement mises en œuvre par la forteresse Europe. Depuis le début de l'année 2022, on compte 9 personnes mortes à cette frontière, juste en marchant ou électrocutées sur le toit d'un train, ou encore victimes d'accidents en montagne ou d'attaques racistes en plein jour. Et ce chiffre est certainement bien inférieur à la réalité. Le nombre de personnes déportées au CPR de Turin est en constante augmentation. Rien qu'au cours des 2 dernières semaines, il y a eu dans la ville au moins 2 rafles d'au moins 20 personnes chacune. Ces frontières sanglantes discriminent, oppriment, invisibilisent et tuent encore et encore, comme cela s'est encore produit ce week-end. Ahmed, comme Omar, comme Moussa, ne seront jamais oubliés. Leur mort remplit notre cœur de douleur et de rage. Toujours contre toutes les frontières et tous les cras. Voilà, et juste pour compléter, le CPR, c'est comme le CRA italien, le Centro di Permanenza per il Rimpatriole, désolé si je prononce mal. Le CPR de Turin, c'est un des plus grands et horribles d'Italie. La situation, elle y est terrible. Il y a beaucoup de personnes raflées à 26 000 qui sont amenées là-bas. Et le nombre de tentatives de suicide, il est énorme. Et l'accès à des assos, avocats et n'importe quel soutien est presque impossible. Pendant ce temps, à Calais, les forces de l'ordre lacèrent au couteau les bateaux des exilés qui tentent la traversée vers l'Angleterre. Et encore plus proche, l'Italie refuse le débarquement de l'Océan Viking, qui accueille à son bord 230 personnes, dont une cinquantaine de mineurs. Après 3 semaines d'errance en mer, le navire a finalement rejoint le port de Toulon ce matin. Le ministre de l'Intérieur, Darmanin, a évoqué un « devoir d'humanité ». Devoir d'humanité qu'il a bien tendance à oublier dans le reste de la vie, en participant activement à la maltraitance et au harcèlement des personnes exilées sur le sol français, et en préparant un énième projet de loi sur l'immigration qui prévoit de réformer les procédures d'asile pour expulser encore et encore. Il en rajoute en disant « L'Italie a été très inhumaine et s'est vengée en annonçant la suspension à effet immédiat de l'accueil prévu de 3500 migrants et migrantes actuellement en Italie. » Encore une fois, les questions de migration sont perçues comme une menace et utilisées comme moyen de pression entre les États en conflit. Ces mêmes États qui appliquent au quotidien des lois racistes et xénophobes. Et on rappelle qu'on ne compte plus les mortes aux portes de l'Europe, en Méditerranée, sur la route des îles Canaries, à Calais, à 26 000 à Briançon, mais aussi dans les Balkans et un paquet de pays de plus en plus loin, visés par ce qu'on appelle l'externalisation des frontières. Tout ça s'est financé et orchestré par l'Europe pour empêcher les gens de partir. Feu aux frontières et liberté de circulation pour tous et toutes. Il reste une petite bonne nouvelle quand même, c'est qu'aujourd'hui va sortir le dernier épisode de Chronique Amère, qu'on va pouvoir écouter en direct à 18h aujourd'hui, vendredi 11 novembre, sur le site de Jet FM, et réécoutable en podcast à tout moment sur Jet FM ou canalsud.net. Donc c'est l'épisode 16 à propos des imaginaires sans frontières. En juillet dernier, 800 activistes qui luttent contre les frontières se sont retrouvés au Transborder Summer Camp, à l'ancienne ZAD, près de Nantes. L'équipe de Chronique Amère y a rencontré des collectifs venant d'un peu partout dans le monde. Comme on a régulièrement envie et besoin de se faire plaisir, on a posé la même question à celles qu'on rencontrait. Et si demain tu te réveillais et qu'il n'y avait plus de frontières, quelle est la première chose que tu ferais ? On se sent super ému de vous faire entendre les voix de ces personnes incroyables avec qui on a parlé de nos luttes et de nos imaginaires. Et on a envie de leur dire et de vous dire à tous et toutes qu'on lâchera rien et qu'on est fiers de lutter à vos côtés.
Ok, dimanche dernier, c'était l'ouverture de la COP 27 en Égypte. C'est le sommet international sur le climat, sponsorisé par Coca, un des plus gros pollueurs de la planète. Alors Macron, il y est allé, puis il est rentré. Et comme il était encore dans le mood, il s'est fait un petit rencard avec les dirigeants des 50 sites industriels les plus pollueurs de France. Alors il y avait du beau monde, hein, je vais pas tous les faire, mais notamment il y avait un charmant fabricant d'engrais qui s'appelle Yara, qui rejette ses déchets hardcore du côté de Saint-Nazaire, entre autres. Alors lui, c'est le multirécidiviste de la pollution industrielle since 1993. Il a été condamné en 2020 à payer 28 500 euros pour des rejets d'eau industrielle qui éclataient les valeurs limites en azote et en phosphore, sans se soucier bien sûr de caler une usine de traitement quelque part. Après, en 2022, à 80 400 euros pour des rejets de poussière au-dessus des seuils autorisés. Et puis là, en septembre, ils ont eu une petite fuite d'acide sulfurique, mais apparemment, ça s'est bien passé. Enfin, vous avez compris l'idée. À l'Elysée, il y avait aussi ArcelorMittal. Lui, sur les usines de Fos-sur-Mer et de Dunkerque, il prend 25% des émissions industrielles de gaz à effet de serre en France. Pas mal. On a remarqué aussi le cimentier Lafarge. Alors lui, se diversifie. Il est mis en examen pour complicité de crimes contre l'humanité, pour avoir filé des petits coups de pouce de plusieurs millions d'euros à des gens du style Daesh. Histoire de pouvoir continuer tranquille le business en Syrie au milieu de la guerre. Était aussi présent Calcia, un autre cimentier, un des plus gros pollueurs d'Île-de-France, aussi de la région Val-de-Loire, aussi du Calvados, enfin, etc. Et lui, il envoie de l'oxyde de soufre, de l'oxyde d'azote, des métaux lourds, etc., haut dans les airs et dans les poumons des habitants des alentours. Du coup, cette brochette de repris de justice était invitée à boire le thé avec le président, histoire de causer décarbonation, donc la baisse d'émissions de CO2, donc de dioxyde de carbone, donc le principal gaz à effet de serre. Ok, très bien. Et seulement pour ça, la bande Arabtou, là, ils mettent leurs conditions. Il faudra des aides publiques massives. Alors ces entreprises, elles sont sur le marché carbone européen. C'est un marché où on vend et où on achète des droits à polluer. Bon, pour la faire courte, les boîtes, elles ont un quota de gaz à effet de serre qu'elles sont autorisées à émettre. celles qui en rejettent moins, elles peuvent vendre leurs droits à celles qui en rejettent plus, qui sont obligées d'en acheter. Le but, c'est d'inciter les entreprises à réduire leurs émissions et pour les inciter à ne pas délocaliser vers des pays où le carbone c'est gratos, elles se font arroser chaque année de millions de quotas de CO2 aux frais de Bruxelles. Il y a un économiste qui s'appelle Maxime Combes qui estime que depuis les accords de Paris en 2015, ces 50 sites, ils ont touché plus de 3 milliards d'euros de quotas carbone gratos. Il y a même des boîtes qui en raflent plus que ce qu'elles émettent, donc en fait elles se font du cash en revendant ce surplus. Le podium des cadeaux en quotas CO2 revient à ArcelorMittal avec 1 251 991 648 euros entre 2015 et 2020. Total Energy et ses produits et ses super profits sur la seconde marche, et Lafarge en bon troisième qui aura peut-être bientôt une grosse prune à payer. Et pour accélérer les investissements nécessaires à la décarbonation des industries, l'argent magique va continuer à tomber. Macron promet une enveloppe de 5 à 10 milliards d'euros en fonction des efforts fournis. À partir de là, on peut se poser des questions du type est-ce que ces entreprises peuvent réellement justifier d'investissements en faveur d'une réduction des émissions de dioxyde de carbone ? Est-ce que ces nouvelles allocations de la part de l'État seront conditionnées à des contreparties contraignantes pour les sociétés polluantes ? Comment on en assure la transparence ? Et enfin, jusqu'à quand les vrais éco-terroristes bénéficieront d'aide publique alors qu'ils affichent des profits records ?
Et oui, toujours plus d'argent au patronat. C'est bien la devise de Macron. Donner du pognon pour le patronat, c'est génial. Alors, nous, pour conclure, on a envie de dire donner du pognon à CQFD, qui lance un appel soutien. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas renouvelé votre abonnement, comme moi, à le renouveler. Et soutenir aussi par des dons ou abonner des potes à vous. Voilà, c'est pour soutenir une presse indépendante et ça vaut toujours le coup. Je voulais vous expliquer, parce qu'ils ont publié un petit article, combien ça coûte. Je trouve ça toujours intéressant de comprendre ça. Donc le premier constat basique, pour sortir chaque mois un journal comme celui-ci, il faut de la maille, environ 140 000 euros à l'année. Donc dans quoi part cette thune ? Dans les salaires de celles qui occupent des postes Uber centraux, notre secrétaire de compte qui est embauché à 24 heures semaine pour assurer notamment les envois aux abonnés, un secrétaire de rédaction à 32 heures par semaine qui chasse les fautes d'orthographe et les erreurs, est chargé de coordination pour chaque numéro, un maquettiste qui se fait payer sur facture, ses mises en page classieuses, et un co-secrétaire de rédaction et un secrétaire de rédaction pour le site internet. Et ces deux personnes sont rémunérées à la base de 13 heures par semaine. Aucune de ces personnes n'atteigne le SMIC et chacune d'entre elles triple ses heures à l'approche de la sortie en kiosque. Donc voilà, c'est intéressant de savoir à qui on donne de l'argent quand on s'abonne à CQFD.
C'est clair.
Et aux salariés, bien évidemment. C'est pourquoi il y a des articles. Il y a plein de bénévoles qui écrivent de super articles, qui font des enquêtes et qui prennent du temps pour distribuer le journal aussi en manifestation, etc. Et donc, le dernier numéro de novembre, il y a un dossier sur le foot business et ses contraires. On rêvait d'un autre foot, mais aussi la grève des raffineries, le procès Bayon de BFM TV contre le journaliste Samuel Gontier, un reportage à Lampedusa, un entretien avec le réalisateur Alain Cavalier, un point sur l'extrême droite israélienne. Et on dirait que c'est... Ah, qu'est-ce que c'est cette musique qui apparaît ? C'est Gianni Russo, Crisi Metropolitana, que vous allez entendre tout de suite. rester sur cette musique pour faire l'agenda. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a beaucoup de choses dans notre agenda. Ce soir, 19h, Manifesten, rue Thiers à Marseille. C'est Juliette Vauclair qui va venir présenter son livre, le son, l'orchestration du quotidien, pardon. Juliette Vauclair qui a parlé, qui avait une émission sur cette antenne il y a quelques années et qui a écrit Le son comme arme. Et voilà, elle vient d'écrire L'orchestration du quotidien, design sonore et écoute au XXIe siècle. C'est un bouquin génial à découvrir ce soir à Manifesten et à aller acheter en librairie.
Ce soir également, donc vendredi 11 novembre à 20h à la DAR, 127 rue d'Aubagne, il y a une soirée de soutien à la Legal Team avec concert de rap. Il y aura saut, remplissage électrique, Kinam et DJ Asm, vitesse et précipitation, Kaina et les chevals hongrois. C'est le tout à prix libre.
Samedi 12, donc demain, à l'appel du collectif Solidarité Internationaliste Marseille-Kurdistan, on a un rassemblement à 12h45 à la Plaine avant de rejoindre le cortège du mouvement kurde. C'est pour dénoncer les attaques de la Turquie envers le peuple kurde et notamment l'emploi d'armes chimiques. Donc toujours samedi, le Centre démocratique du Kurdistan de Marseille organise une conférence sur la situation des prisonniers politiques en Turquie et l'isolement carcéral d'Abdullah Öcalan, détenu depuis 1999. C'est à 18h au local solidaire 29 boulevard Longchamp.
Et une soirée d'infos et de riposte face à la gentrification, c'est toujours demain à partir de 18h à Manifesten avec cartographie, lecture, repas, boum, voilà, 59 rue Thiers.
On a la rumeur que peut-être dimanche il y aurait le dernier Pirate Punk et ça ce serait à 14h place du lycée Thiers, à confirmer donc, mais si ça se passe ce sera en soutien à Sarah qui est actuellement en tôle en attente de son procès pour tentative de meurtre sur son ex-copain violent.
Et appelez-nous pour nous confirmer cette date.
Jeudi 17 à 19h à Manifesten, on est à la présentation de la réédition du livre L'Amande Sauvage. L'auteur Mohamed Kenzi revient sur son histoire de la guerre d'indépendance algérienne aux barricades de mai 68 en passant par les bidonvilles de Nanterre jusqu'à son exil à Genève en 1973. C'est à Manifesten jeudi à 19h.
Vendredi prochain, le 18, à partir de 18h, c'est le Manifestin qui revient donc à Manifesten. Ce mois-ci, ce sera en soutien à l'AUP, l'association des usagers et usagères de la PADA, qui regroupe des demandeurs et demandeuses d'asile avec trois activités principales, les permanences juridiques, la distribution de colis alimentaires et l'accès à l'hébergement avec la création d'un CADA autogéré au 25 rue Saint-Basile à Marseille. Tout ça, ça se passe au Manifesten, 55 rue Thiers, à prix libre.
Et samedi, donc 19, dans une semaine, l'invitation pour un exposé sur les frontières, sur la question des frontières, leur externalisation, la formation des États-nations et les conséquences de tout ça. Ça sera en français avec des supports vidéo, sonores et visuels. Et ça sera aussi à Manifesteur à 17h le samedi 19 novembre.
Et le dimanche 20 novembre, ce sera le TDOR,
Tidor,
ok. Journée du souvenir trans. Alors, à 18h, dans la salle de cinéma du Vidéodrome, un film, Mi Vacio Io, c'est comme ça qu'on dit, oui. En présence de l'actrice principale, Raphaël Pérez, qui est transfemme. Donc, Orga Festival Ciné Horizon, prix libre plus adhésion 5€. À 20h sur le cours Julien devant le Vidéodrome, donc c'est 49 cours Julien, nous vous invitons à nous rassembler et à manifester toute notre colère face à la transphobie et à la transmisogynie. On en a assez de compter nos morts, nos mortes. Il y aura un micro ouvert pour que les personnes trans qui le souhaitent puissions nous exprimer. Vous êtes invités à dire et crier vos revendications, vos témoignages, lire vos textes politiques, poétiques, dire un mot ou deux, honorer nos camarades qui reposent en rage. Venez nombreux, nombreuses, apportez vos pancartes, que vous soyez trans, inter, NB, camarades et alliés dans cette lutte constante. À 21h, sélection vidéo de XY Media et intervention de Farah de Acceptesté dans le cinéma du coup Vidéodrome au prix libre. XY, c'est le premier média transféministe audiovisuel en France fondé par des femmes trans. L'équipe est constituée de personnes trans qui travaillent dans l'audiovisuel, sont journalistes ou sont militants, militantes dans le milieu associatif. Et à 21h30, deux perfs dans l'espace bar, c'est gratuit, prix libre.
Et ben là, il est une heure passée de une minute, on va laisser l'antenne à l'agenda alternatif. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. On a oublié de dire qu'on est diffusé bien évidemment sur Ayoili FM à Avignon.
Salut Avignon.
Désolé d'avoir oublié cette présentation au début.
Et puis on vous dit à la semaine prochaine.
Bon week-end.
Ciao.
Ciao.
Bisous.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui.